Bonjour chers amis auditeurs. Alors nous revenons au château de Lantis pour notre sixième émission, mais nous sommes dehors et nous ne voyons personne à l'horizon. Alors Marie-Madeleine, bonjour.
Bonjour Martine, bonjour.
Est-ce que vous
à
pourriez
tous.
Sonner la cloche s'il vous plaît? Voilà, merci beaucoup Marie-Madeleine. Et nous attendons la propriétaire Françoise Barbier-Damiette, qui va peut-être, on entend un bruit vaguement.
Ah, voilà, voilà,
porte s'ouvre. Bonjour Françoise.
Bonjour chers auditeurs, bonjour chers amis.
Voilà, nous revenons auprès de vous pour continuer notre visite guidée, bien sûr. Nous fermons. Alors Françoise, nous passons par une porte absolument extraordinaire. Vous pourriez un petit peu nous donner, parce qu'il y a des clous, je vois des clous. Est-ce qu'elle est d'origine ou est-ce qu'elle a été pièce rapportée?
Alors cette porte, c'est la surprise du château. Lorsque nous avons excavé toute la terre qui était à l'intérieur et à l'extérieur du château, nous avons découvert cette porte dans son jus, encore accrochée. Ah. Le renard, cette barre, était au sol, mais tout y était, la serrure y était. Et surprise, surprise, en creusant, nous avons retrouvé la clé au pied de la porte.
Oh, bah c'est magnifique.
Alors cette porte est une porte défensive, cloutée à clous croisés, et les clous sont retournés en interne, ce qui permettait, en cas d'attaque à la hache, l'agresseur ne pouvait pas rentrer, puisque la hache ne pouvait pas faire de dégâts dans cette porte.
D'accord, donc c'est une porte, la porte d'origine.
C'est la porte d'origine du XVIIe.
D'accord, très bien. Alors, chers amis auditeurs, nous sommes donc maintenant à l'intérieur du château. La semaine dernière, nous étions dans la cuisine, mais nous allons y retourner parce que tout n'a pas été dit. Bah, effectivement, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et en levant la tête, Françoise, j'aperçois toujours des pierres, une petite fenêtre là, en haut de la porte d'entrée de la cuisine. Alors, où sommes-nous ici?
Alors, nous sommes dans l'entrée du château. Il faut se souvenir que le château était entouré de douves sèches, de fossés. Donc, pour rentrer, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de pont-levis. On jetait simplement une passerelle, c'est-à-dire quelques poutres, quelques bastins qui permettaient aux hommes de rentrer. Les chevaux ne rentraient pas, évidemment, puisqu'il y avait des écuries autour du château. Alors, en cas d'attaque, eh bien, on refermait la porte, on rentrait la passerelle et on avait tout de suite, là, à notre gauche, des entrées de poutres signifiant qu'il y avait un poste de guet pour un guetteur. D'accord. Un homme armé qui pouvait tirer sur les assaillants, qui pouvait voir par un poste avancé s'il y avait de nombreux assaillants ou pas, et qui pouvait prévenir dans les cuisines et qui tirait d'accord. sur les assaillants et permettait à toute la population de se réfugier en dessous, puisque en dessous, on a encore des salles d'armes qui donnent accès à des caves et qui donne accès à une crypte avec un tunnel qui arrive à des gagnacs.
Voilà, vous nous en aviez parlé il y a deux émissions de cela. Effectivement, des tunnels, mais vous ne savez pas encore où est-ce qu'ils vont ces tunnels. Vous n'avez pas encore creusé, vous n'avez
non,
pas encore
fait. On est
fait
encore 8 voilà. mètres au-dessus
voilà,
du
voilà.
niveau.
Effectivement, nous apercevons cette porte. Cette porte là sur notre droite où qui donne donc dans l'escalier et qui donne dans cette pièce.
Voilà. Donc voilà. C'était un poste de garde.
Voilà, la ici, porte va s'ouvrir. Cas, la porte va c'est... s'ouvrir et nous allons découvrir voilà des escaliers, effectivement, des escaliers en pierre. Voilà. Alors oui. Françoise, donc ça amène au
alors ces escaliers amènent. On descend dans le temps, on descend au XVe siècle ici.
D'accord.
Et on va accéder de chaque côté à des salles qui sont encore pleines de terre.
D'accord, oui. Marie-Madeleine, vous vouliez rajouter quelque
oui,
chose
non,
peut-être
puisqu'on était à ce niveau voilà. du château, si vous
oui.
voulez, c'est pour expliquer ce poste de garde qui était en hauteur, puisqu'il y avait un plancher. Donc,
il y avait un plancher.
Voilà, un plancher. Et le soldat se mettait au-dessus, bien sûr, et surveillé par les fenêtres qui sont en hauteur, d'une part vers l'extérieur. et d'autre part vers la cuisine pour prévenir la garde qui était à l'intérieur.
D'accord, donc
c'est très stratégique.
C'est tout à fait stratégique et nous nous trouvons ici dans une caserne. On n'est absolument pas dans un château tel qu'on l'imagine. On est beaucoup plus près d'un habitat rustique et paysan et très loin de Versailles.
D'accord. Alors, nous allons revenir dans cette cuisine et repasser sous cette fenêtre. Voilà, et nous la découvrons dans la cuisine. On sent tout de suite qu'il y a un changement au niveau sonorité. Et donc, de l'autre côté, Françoise, vous allez nous décrire cette fenêtre qui se trouve, cette petite fenêtre au-dessus de la porte d'entrée de la cuisine.
Alors, cette toute petite fenêtre a conservé son bois depuis le Moyen-Âge, puisque la cuisine est un reliquat du château du Moyen-Âge. Et donc, j'ai décidé d'y faire un vitrail très simple en verre. Vers fumé, tout est fabrication maison et artisanale avec des verres bullés de Venise et des soudures au plomb et à l'étain. Donc c'est vraiment du sur mesure, puisque vous pouvez remarquer que cette petite fenêtre n'est pas rectangulaire, mais peut-être un peu trapèze ou même pas.
Effectivement. Voilà, alors on parle de fenêtres, et effectivement, il y a quand même quelques fenêtres dans cette pièce qui ont leur importance, et notamment dans la petite pièce que nous irons tout à l'heure, qui n'est pas la cuisine, qui est une petite pièce, voilà, qui était rattachée donc au château. Et oui, les fenêtres, nous en avons une de chaque côté quand nous entrons, à droite et à gauche. Elles ont une particularité, notamment celle de gauche, avec des barres.
Voilà, les fenêtres sont très hautes, évidemment, puisque c'est à visée militaire. Il ne faut pas être tué par les projectiles. Et ces fenêtres sont protégées par des barreaux, puisque c'est une défense militaire accrue. Et sous ces fenêtres, on a un élément de confort. C'est ce que l'on appelle le coussiège, qui est une petite banquette en pierre qui permettait peut-être aux servantes ou aux personnes qui habitaient ici de s'asseoir à l'abri des projectiles.
Oui, et aux soldats de s'asseoir, de se reposer.
Oui, c'est comme on peut dire actuellement comme un banc de pierre.
Voilà, en fait, c'est un banc de pierre. Voilà. Qui étaient appelés les coussièges, qui étaient en général dans les embrasures de fenêtres.
D'accord. Et donc, en face de cette fenêtre-là, mais je crois que ça, elle existait aussi pour celle-ci, en face, on a une petite fenêtre en hauteur, toujours, avec des barres.
Des barreaux.
Des barreaux qui, grande chance, sont restés accrochés en place. Et une fois le dégagement des terres opéré, on a découvert ces barreaux. Ces barreaux surprenants parce qu'ils sont dotés, ils sont carrés et dotés de chaque côté de petites piques un peu retournées, piques qui sont évidemment un petit peu raccourcies, mais
par le temps.
Et les ferronniers ont expliqué évidemment que c'était une mesure de défense. Si vous arriviez avec un grappin à escalader les fossés, vous arriviez devant ces fenêtres avec des barreaux pointus, et on s'agrippait difficilement, puisque les pointes des barreaux vous rentraient dans les mains.
Oui, mm-hmm. Ce sont des barreaux épineux.
Ce sont des barreaux épineux, hyper défensifs.
Mais effectivement, on aperçoit qu'il y a... Ça a peut-être été un peu plus important, mais on aperçoit comme des petites épines de chaque
voilà,
côté.
Voilà, les épines devaient être beaucoup plus longues.
D'accord.
Oui. Oui, d'accord. Elles ont été érodées par le temps.
Elles ont été érodées.
Et c'est donc d'origine.
C'est d'origine. Voilà. C'est d'origine.
D'accord. Alors, nous sommes à nouveau dans la cuisine des militaires, et il y a dans cette cuisine une autre particularité. Il y a quelques petites niches. Alors, j'appelle niche, mais je dois peut-être encore me tromper, Françoise. Vous allez nous éclairer là-dessus tout de suite. À côté de l'évier, il y a une première niche que nous apercevons tout de suite. Alors, vous allez nous dire
niche qui était évidemment pleine de terre, pleine de gravats. Nous avons excavé tout ce qu'il y avait dans cette niche. Nous avons eu la surprise de retrouver une planche ancienne qui est d'époque, qui est du XVIIe siècle, qui a assez bien survécu à l'ensevelissement. Oui. Et puis, il y a quelques mois, lors d'un confinement avec le Covid, je faisais un époustage, un nettoyage, et j'ai entendu que la pierre au sol bougeait. Alors, cela a excité ma curiosité.
Je n'en doute pas.
Et en la soulevant, eh bien, je me suis aperçue que c'était simplement l'orifice d'une latrine. Donc, cette armoire n'était pas du tout une armoire, c'était une latrine, manque le siège, mais on a l'ouverture et la descente pour les matières qui s'évacuent à l'arrière par une canalisation bien bâtie en pierre, un peu comme à Pompéi, où on a deux murets et un couvercle au-dessus en pierre, et ça s'évacue, on ne sait où, puisqu'on n'a pas voulu creuser trop loin pour que les visiteurs ne tombent pas dans nos trous.
Donc une latrine, c'est quand même très surprenant, on n'imaginerait pas Marie-Madeleine.
C'est dans la pièce à vivre, c'est dans la cuisine où tout le monde était là pour vivre, pour manger, pour dormir, pour le reste.
Et puis militaire également.
Oui, donc, militaire, oui. Il n'y a pas du tout d'intimité. Dans une caserne, on vit tous ensemble, en communauté. Et dans cette salle, on prenait les repas, on se réchauffait. On avait des latrines, on avait l'évier. Et on avait aussi un lit pour les malades et les mourants qui pouvaient demeurer dans la cuisine jusqu'à trépasser. Et on a de très nombreux exemples dans les archives de malades, de blessés qui restent là, bien au chaud, avec du monde autour d'eux jusqu'au trépas.
Oui, dans une couche entourée de rideaux, probablement.
Voilà, certainement, il y avait des courtines, et nous avons retrouvé les fers qui tenaient ces courtines.
D'accord, et donc là, il y a des planches en bois. Mais il y en a une qui n'est pas tout à fait la même que les autres, Françoise. La toute première, celle qui est en haut.
Toute première est une planche que nous avons retrouvée sur place, qui est impossible à déceler de toute façon.
D'accord.
Et qui date du XVIIe siècle.
Donc oui, ensuite, ça a été réaménagé.
Cette latrine.
En placard.
En placard, sans doute au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Et la grande surprise a été de retrouver des latrines.
Oui,
ça c'est sûr.
C'est extraordinaire.
Qui peut s'expliquer, puisque dans la salle au-dessus, il y a des latrines dans la continuité.
Et oui.
D'accord. Alors, en faisant le tour un petit peu de cette cuisine, donc nous repassons devant l'évier, puisque nous étions devant ce placard, entre guillemets, mais qui était des anciennes latrines, et nous apercevons en face de nous une autre ouverture on pourrait dire que c'est un placard, mais je ne crois pas. Françoise va encore nous apprendre sûrement quelque chose.
Alors, nous avons longtemps considéré cette ouverture comme un placard, jusqu'à ce que la chargée de mission de Paris vienne nous rendre visite et nous informer que nous nous trompions. C'était simplement la porte qui donnait sur les retours du château. Puisque au XVe siècle, ce château militaire avait quatre côtés et donc des ailes de chaque côté. Et cette porte permettait de s'introduire dans l'autre partie du château. Et nous avions été intrigués par des orifices dans chaque pierre autour de latérale. Et effectivement, c'était des barres. Donc c'était une mesure militaire stratégique. Quand une partie du château était attaquée, on fermait les barres, on cadenassait, et ce qui mettait à l'abri les habitants du château et les autres parties du château qui n'étaient pas attaquées.
D'accord, donc une porte qui était bien sûr là, on a l'impression qu'il manque une partie puisque ça a été muré. Il y a un coffre en dessous dont on parlera dans quelques instants, mais effectivement, elle a été fermée à une hauteur.
À 60 cm, ça a été fermé certainement au XVIIe ou au XVIIIe siècle lorsqu'on a
plus eu.
Oui. Les autres côtés du château. Quand le château s'est résumé simplement à un corps de logis rectangulaire et deux tours excentrées.
Oui, voilà. Toujours la même époque que les latrines, ça a été réaménagé.
Ça a été réaménagé comme beaucoup de châteaux. Alors, une petite information.
Ah, nous nous tournons vers la cheminée, là.
Voilà. Alors, tout le château était peint.
Oui.
Tout le château était peint et vous voyez les pierres,
oui,
peint
en
polychromie, oui. Et donc les pierres rosées sont des pierres qui étaient peintes en rouge et les grisées étaient des pierres qui étaient peintes en bleu. Donc il y avait certainement des motifs partout puisque la pierre n'était pas apparente comme aujourd'hui.
Oui,
évidemment, tout était enduit et vous voyez là de chaque côté des portes la polychromie, les pigments ocres qui apparaissent et qui apparaissent d'autant plus que le temps va s'améliorer et avec la chaleur, le château devient rose.
D'accord, à l'intérieur aussi.
À l'intérieur,
donc, si je comprends bien.
Aussi.
Voilà, très
on
bien.
A de la polychromie ici,
tout autour des
portes et tout autour de l'évier.
Effectivement,
aussi.
On l'avait remarqué la dernière fois que c'était un peu plus rose que la pierre. Donc, il y a en bas de cette ancienne porte, qui est devenue un peu placard, un coffre, Françoise, qui est un coffre très beau, mais très d'époque.
Voilà, un coffre qui se trouve...
Voilà, on ouvre le coffre.
Dans son jus.
Qu'on peut aussi appeler malle.
Voilà,
malle de voyage
que nous avons découvert dans le manoir qui avait été construit par le paysan qui a acheté le château au XVIIIe siècle, à la Révolution française, et qui a remisé dans le grenier de sa maison tous les documents notariés, successoraux et les livres du château. Alors, cette malle date certainement du fin 18e, début 19e. Elle attend d'être restaurée.
D'accord.
Oh, elle est bien dans son jus, comme ça. Là.
Elle est pas mal aussi.
Oui, on aperçoit du papier qui a été collé au fond.
D'anciennes écritures, de très belles écritures d'ailleurs, avec des pleins et des déliés, comme on faisait jadis, qui doivent dater de la fin du 18e.
Effectivement, c'est très beau. Très beau. Donc, Françoise referme le coffre, ou la malle, et nous allons nous diriger, alors avec une... il ne faut pas être très, très, très grand, parce que nous allons passer par une porte où je passe largement, Françoise, comme vous, mais quand même. Elle est vraiment très petite et nous arrivons, alors là, nous changeons également de sonorité, nous arrivons dans une pièce qui sert actuellement de cuisine, mais cette pièce, qu'est-ce que c'était, Françoise ?
C'était un poste de garde, poste de défense. Et vous voyez les voûtes en casemate, les casemates qui permettaient de ne pas prendre feu. Si jamais il y avait un coup de feu qui partait mal, le feu ne se propageait pas avec les voûtes. Les voûtes qui sont très épaisses, comme celles de la cuisine, puisqu'elles font 1,20 m de haut. Et ces voûtes qui permettaient d'évacuer sur cette petite fenêtre en haut...
Oui, qui est toujours en haut, petite fenêtre toujours en hauteur.
Toujours en hauteur, les fumées, puisqu'on fabriquait sa poudre à canon sur place, en mélangeant de la cendre tamisée, du soufre et du salpêtre.
D'accord.
Alors, si c'était bien mélangé, le coup partait.
Oui.
Si c'était mal mélangé, évidemment, il y avait des dégâts corporels.
Oh là là.
Et une fumée... épouvantable, ce qu'on appelait la poudre noire, la fumée de la poudre noire, qui devait absolument s'évacuer parce que c'était très toxique. Et on évacuait la fumée de la poudre noire par cette fenêtre. Cette autre fenêtre a été ouverte...
Qui se trouve à notre gauche, en face de la porte d'entrée par laquelle nous venons d'entrer.
Cette autre fenêtre a été ouverte certainement au XVIIIe siècle, mais cependant, elle était dotée de barres quand même.
Comme celle de la cuisine.
Comme celle de la cuisine, puisqu'on sait qu'à l'arrière du château, la forêt de la Bécède était infestée de loups, était infestée de brigands, de coupe-jarrets, était infestée de lépreux, puisque les pauvres étaient stockés, on peut dire, on ne peut pas trouver un autre mot,
cantonnés
dans un lieu qui s'appelle sauvegarde.
Voilà.
Où on remisait les malheureux qui ne pouvaient pas se redresser dans leur habitation. Leur habitation, c'était des espèces de petites gariotes, de gazelles, où ils rentraient à quatre pattes. Ils n'avaient pas le droit de travailler, on les craignait beaucoup. Et quand ils mouraient de faim, ils attaquaient les villages et les châteaux. Et on craignait beaucoup, la léproserie est à 800 mètres derrière le château. Donc on craignait beaucoup sur la face nord l'arrivée des lépreux.
D'accord, d'accord. Alors il y a effectivement des fenêtres dans ça, qui est tout à fait en haut, en hauteur, dont vous venez de parler. Celle-ci, à ma gauche, dont vous venez de parler également. Mais il y a de chaque côté, en face de moi, et derrière nous, alors Françoise, il y a des petits trous avec des petits carreaux, des petits verres.
Et de très belles pierres taillées vers l'extérieur.
Voilà.
C'est magnifique.
Alors ce sont des bouches à feu, puisque c'était une salle militaire ici. Et il y a quatre bouches à feu de tous côtés.
Oui.
Des ouvertures pas très grandes.
Ah non, vraiment, là c'est très petit.
On introduisait une couleuvrine, donc comme un petit canon. On tirait des balles en pierre et on fermait les ouvertures des bouches à feu avec des pierres qui servaient de volets.
Ils s'adaptaient
à l'ouverture. Il n'y avait évidemment pas de verre. Le verre est arrivé beaucoup plus tard et coûtait une fortune. Et on imagine qu'un petit château militaire comme ici n'avait pas du tout les moyens d'installer des verres. Donc on était dans le noir, ventilé par les bouches à feu, puisqu'ici il y a une bouche à feu
au-dessus de ce qui est actuellement les lits modernes.
Et ici, une autre bouche à feu que nous n'avons pas démurée, puisqu'on a des peintures murales un peu partout, qui sont restées sur place. Et dans cet endroit, j'ai retrouvé une petite chaussure d'enfant.
Oui,
du XVIIe siècle.
Voilà, du XVIIe siècle. Ça a été bouché au XVIIe siècle.
Ça a été bouché au XVIIe siècle. Et là, ça avait été bouché avec des pierres, comme partout. Et derrière les pierres, entre le mur... Et les pierres, et bien une chaussure d'enfant. Des moments très émouvants, puisqu'on se dit qu'il y avait quand même des enfants.
Et oui, tout à fait.
Enfin, la vie des enfants dans les châteaux était terrible.
Ce qui est intéressant, c'est que l'on voit l'enduit qui a servi de bouchage et qui a été peint ensuite, mais on voit l'épaisseur de cet enduit qui fait par endroit au moins 2 cm.
Voilà, ça servait aussi d'isolant.
Oui.
On ne laissait pas la pierre apparente puisqu'il fallait isoler. Et les châteaux étaient couverts d'enduit aussi à l'extérieur puisque c'était l'isolation dedans et dehors.
Et on voit bien que c'est un enduit sableux.
C'est un enduit sableux, exactement.
D'accord. Alors Françoise, il y a un petit détail qui m'a interpellée là lorsque nous étions juste devant la bouche à feu là, qui se trouve à ma droite. Il y a une petite pierre devant. Elle servait à quoi, cette pierre ?
Alors, cette pierre qui est taillée stricto sensu à la dimension de la bouche à feu servait à fermer les ouvertures pour éviter les courants d'air,
d'accord,
la pluie et le froid. Il faut imaginer que l'on habitait dans un château ouvert à tous les vents.
Françoise, c'est un bon poste d'observation aussi, là.
C'est le poste de guet moderne.
C'est le poste de guet moderne qui donne de visu sur le parking.
Ah.
Ce qui me permet, lorsque quelqu'un arrive, un visiteur arrive, de le repérer et de l'accueillir avec plaisir.
Ah, c'est formidable. Alors, lorsque nous levons la tête... Il y a cette voûte, alors je dirais que c'est de la chaux, mais vous allez me dire encore, Françoise, que je me trompe, sûrement. Cet enduit que nous voyons, blanc ou plutôt écru, c'est de la chaux ou est-ce une autre matière ?
Alors, la voûte a été restaurée par mes soins, puisqu'elle était très abîmée. Elle est arrivée jusqu'ici, au-dessus de ma tête.
D'accord.
Et vous voyez un petit décrochage d'un centimètre, c'est ma reprise. Et donc toute cette partie à droite a été reprise par mes soins. Donc des échafaudages, évidemment. On rentre les pierres en force, on les bloque avec des coins. On enduit avec la chaux et le sable pour insinuer tout cela entre les pierres, en travaillant par le dessus et par le dessous même, en même temps.
Même technique que pour la voûte de la cuisine.
Exactement la même technique. Et puis, donc on n'a pas voulu ici, dans cet espace qui me sert maintenant de cuisine, laisser la voûte apparente, puisque en cas de gros intempéries, tombe toujours un petit peu de sable et de gravier. Mmh. Donc, j'ai souhaité la restaurer tel que tout le bâtiment devait être restauré, devait être construit à l'époque, c'est-à-dire avec trois couches successives, une toutes les 48 heures, de chaux.
D'accord.
De chaux et de sable pour créer l'épaisseur.
D'accord.
Et la matière.
D'accord.
Une fois que cela est sec, ce qui n'est pas évident parce qu'il faut déplacer l'échafaudage à chaque fois, c'est un échafaudage professionnel qu'il faut déboulonner, j'ai souhaité l'enduire comme tout était enduit, puisque tous les châteaux étaient enduits, ce qui faisait l'isolation, mais qui permettait aussi de peindre. Mm-hmm. On pouvait peindre sur la
oui,
chaux.
Tout à fait.
Et donc là, j'ai mis de la chaux Balthazar, un autre type de chaux, qui est une chaux très, très fine, très, comme une farine mm-hmm. bien tamisée, mm-hmm. que vous mélangez avec de l'eau. Mm-hmm. Vous étalez ça avec un gros pinceau. Donc une première couche, vous dites, bah, j'ai rien fait, parce qu'on ne voit plus rien. On attend 3 jours, on met une deuxième couche, et ça commence à paraître un peu laiteux. Et 3 jours après, une troisième couche, et là, c'est blanc, où on peut faire griser en tamisant de la cendre,
d'accord.
où on peut faire roser avec de la terre tamisée,
mm-hmm.
aussi.
Mm-hmm.
On peut faire bleuter avec des morceaux d'ardoise.
Mm-hmm. Oui, à la couleur qu'on souhaite, quoi.
Faire la couleur que l'on veut. Et donc là, dans cette cuisine, je l'ai faite blanche, tout mm-hmm. simplement, et ce qui permet un nettoyage facile.
Oui.
Ça fait 20 ans que c'est fait, et vous voyez, ça n'a pas besoin d'être fait. Donc je pense que quand c'était fait, ça pouvait durer 100 ans.
Oui, oui. Et au-dessus de cette voûte, il y a combien de mètres hein?
Il y a à peu près 1,50 m.
D'accord.
Donc pour arriver
à l'étage supérieur. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, nous allons terminer sur cette chaux et cette explication autour de la chaux. Chers amis auditeurs, merci Françoise de nous avoir à nouveau accueillis, mais nous revenons Françoise la semaine prochaine parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir et de magnifiques choses à découvrir. Merci beaucoup pour votre accueil.
Merci infiniment.
Merci Marie-Madeleine pour toutes vos explications fort intéressantes à toutes les deux.
Avec plaisir.
Et à la semaine prochaine pour continuer notre visite du château de Lantis, une surprise à chaque pas.
À très bientôt. Au revoir.
À la semaine prochaine.
Au revoir.